Aujourd'hui dans Parlons-en, un conflit oublié et pourtant extraordinairement meurtrier, celui qui ravage le Soudan depuis près de 2 ans. Une guerre totale que se mènent 2 généraux rivaux et au milieu de laquelle se trouvent des millions de civils. Comment expliquer qu'elle intéresse si peu, que les tentatives de médiation aient toutes échoué? Que racontent les déplacés de retour de cet enfer sur terre? Parlons-en, c'est jusqu'à 10h30 exceptionnellement aujourd'hui avec Marion Dualet et Elliot Brachet. Bonjour à tous les deux, merci d'être là. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en. Et c'est parti. Bonjour Marion Dualet.
Bonjour Pauline.
Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes chargée de plaidoyer au département des opérations de Médecins sans frontières. Vous rentrez de la frontière tchado-soudanaise. Vous avez passé plusieurs semaines et rencontré, côté tchadien, des déplacés soudanais. Vous nous direz dans un instant ce qu'ils vous racontent de ce qu'ils ont vécu là-bas. Bonjour Elliot Brachet.
Bonjour Pauline.
Vous êtes journaliste indépendant, ancien correspondant de RFI et du Monde à Khartoum. Vous avez signé pour le quotidien du soir français il y a quelques semaines une série exceptionnelle de 8 reportages avec le photo au reporter Abdulmonam Issa, au cœur de ce Soudan ravagé par la guerre, aujourd'hui considéré comme la plus grave crise humanitaire mondiale, mais dont on parle si peu. Avant que vous nous racontiez pourquoi précisément le sort de ces Soudanais semble si peu intéresser le monde, je voudrais qu'on fasse un petit retour en arrière, en avril 2019, et à l'époque les images avaient fait le tour du monde. Des images notamment de ces femmes, de cette femme habillée de blanc qui était montée sur une voiture et qui exhortait la foule à se révolter contre Omar el-Béchir. Le dictateur était tombé quelques jours après. Peut-être avec vous, Elliot Brachet, pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas ce qui s'est passé, comment on est passé en 6 ans de cette révolution populaire, civile, qui avait suscité tant d'espoir, à une situation que The Economist décrivait il y a quelques mois comme l'enfer sur Terre.
Donc, il faut voir qu'en avril 2019, à la chute d'Omar el-Béchir, il y a un accord de transition qui est signé entre, d'une part, un conseil militaire, dirigé déjà à l'époque par les 2 généraux qui se font aujourd'hui la guerre, Burhan et Hemeti, et un gouvernement civil. S'ouvre une fenêtre d'espoir de 2 ans environ, au bout de laquelle, en octobre 2021, les 2 généraux vont faire un coup d'État contre ces civils qui avaient des velléités de réforme dans le pays. Et au cours dans ce coup d'État, ces 2 généraux alliés ont fini par se diviser sur les ressources du pays, la répartition du pouvoir et notamment l'intégration des 2 forces armées soudanaises au sein d'une armée unifiée. Et le 15 avril 2023, les premières balles étaient tirées à Khartoum. Et 20 mois plus tard, on est toujours dans un conflit inextricable.
Donc ces 2 généraux, Abdel Fattah al-Burhan, qui est à la tête des forces armées soudanaises d'un côté, et Hamdan Daglo, qu'on appelle Hemeti, qui est le chef des forces de soutien rapide. Et il faut expliquer, Marion Dualet, que parmi ce greffe à ce combat à mort entre ces 2 généraux et les hommes qui les soutiennent, une multitude de groupes armés.
Oui, absolument. On simplifie un peu le conflit en parlant de 2 principaux protagonistes et belligérants. Mais il y a une complexité de groupes qui s'ancrent dans les précédents conflits aussi, qui avaient ravagé le Soudan et en particulier le Darfour dans les années 2000. Et donc où se trouve aussi la clé de ce qui se passe aujourd'hui, puisque les 2 généraux qui s'opposent aujourd'hui ont été des alliés dans un premier temps, effectivement, de cette transition politique. Mais avant ça, en fait, l'un était les supplétifs de l'autre, c'est-à-dire celui, Burhan, qui incarne ce qui reste de l'armée soudanaise, avait délégué, en fait, les sales besognes et la répression dans le Darfour à une milice qui s'appelait à l'époque les Janjaweed et dont les forces de soutien rapide aujourd'hui sont les héritiers. Et avec un historique très long d'exactions et même de génocide, enfin, qui a été qualifié de génocide dans les années 2004-2005 au Darfour.
Et dont les civils, bien sûr, se souviennent. Est-ce que c'est une guerre simplement, si j'ose dire, pour le pouvoir, Elliot Brachet?
Il faut voir que le Soudan, c'est un pays immense qui fait 4 fois la France. Il y a aussi énormément de ressources naturelles. C'est un conflit qui est aussi alimenté par les ressources minières, notamment l'or, le contrôle de régions agricoles. Il y a énormément de ressources, le bétail, le pétrole. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est un Soudan qui se divise de facto entre, à l'est, les forces armées soudanaises du général Burhan et à l'ouest, schématiquement, les forces du général Hamdan Dagalo. Et les deux ont la main sur des ressources et bénéficient aussi d'un réseau d'alliances régionales dont on reparlera peut-être, et qui prolonge aussi le conflit.
Une guerre pourquoi et une guerre jusqu'où, Marion? Je crois que Eliott, vous le racontez dans un de vos reportages dans Le Monde. On se demande chacun jusqu'où ils sont prêts à aller. C'est une guerre à mort jusqu'à la destruction totale du camp adverse.
Oui, et ce qui est particulièrement choquant, c'est que non seulement c'est une guerre entre deux camps, mais c'est une guerre dont la population civile est la cible principale en réalité, avec cette approche qui est commune aux deux parties de vouloir affaiblir la partie adverse en ciblant la population, avec tout de même des méthodes de guerre qui sont bien différentes. Et on voit que du côté des forces de soutien rapide, des exactions massives ont été commises, qui ont été qualifiées, enfin dont nous on a été témoins en tant qu'acteur médical de terrain, notamment dans la ville de Jenina, et dont les enquêtes ont montré par la suite, enfin en tout cas une enquête menée par Human Rights Watch a qualifié ces exactions de nettoyage ethnique et de crimes contre l'humanité. Et ça a été corroboré, en tout cas, par les enquêtes menées également par Médecins Sans Frontières sur le terrain. Mais de l'autre côté, la partie des forces armées soudanaises se livre aussi à des pratiques de siège, ça, c'est le cas des deux côtés, ainsi qu'à des bombardements non discriminés sur les populations civiles. Et donc, en fait, on voit que l'affamement des populations, le siège, le déni d'accès de l'aide humanitaire est quelque chose qui frappe tout le pays et toute la population aujourd'hui.
Au nom de quoi cette population civile, d'un côté comme de l'autre, est-elle prise pour cible ?
En fait, les deux camps n'arrivent pas, ne paraissent pas en capacité de l'emporter militairement sur le terrain. Donc, on est dans une guerre d'attrition où, en fait, les deux camps continuent de recevoir de l'armement massif, et on balaye d'un revers de main toute négociation, toute tentative de médiation. Et ils sont convaincus de pouvoir l'emporter militairement, en utilisant aussi la faim comme arme de guerre de part et d'autre, en utilisant, le siège de ville entière. En fait, ils jouent les SAF ont une stratégie, les forces armées soudanaises ont une stratégie beaucoup plus de long terme, quand les forces de soutien rapide mènent des offensives plus éclairs. Mais au milieu de ça, on a des populations civiles, enfin dans des villes comme Khartoum. En fait, faut imaginer aussi que la capitale, qui était une ville de entre 6 et 8 millions d'habitants, est aujourd'hui totalement une zone de guerre divisée en différentes lignes de front. Et ce qui apparaît clair depuis le début de la guerre, c'est que les deux armées qui s'opposent ne font aucun cas des cas civils. Il n'y a eu aucun corridor humanitaire qui a été mis en place. Et donc ils sont encore dans une logique de vouloir gagner, d'opter pour la victoire militaire totale.
Mais ce qui est assez singulier, c'est qu'après presque 2 ans de guerre, dans le rapport de force, il y a une espèce il n'y a pas une balance qui penche plus d'un côté ou de l'autre. Les choses semblent...
Alors là, pour la première fois depuis le début du conflit, à partir du mois de septembre, l'armée régulière a repris l'offensive. Elle a avancé notamment dans la capitale à Khartoum, mais aussi sur des fronts à l'est. Elle vient de récupérer la ville de Wad Madani, dans une région assez stratégique et fertile dans la Jezira. Donc ils ont repris l'initiative, mais alors tout ça, ça se fait, comme Marion l'a dit aussi, au prix de... Enfin, c'est des victoires à la Pyrrhus qui se font grâce à des tapis de bombes lancés sur des populations civiles, et aussi de nombreuses exactions contre des populations civiles suspectées d'avoir collaboré avec le camp ennemi. Mais à l'ouest du pays, donc si les SAF avancent, si les forces armées régulières avancent à l'est du pays, là les regards sont tournés à l'ouest, au Darfour, sur la ville d'El Fasher, qui est complètement encerclée par les forces de soutien rapide depuis le mois de juin. Et dans le cas où cette ville tomberait entre les mains des paramilitaires, il faut imaginer que les forces du général Dagalo auraient le contrôle quasi non contesté sur un territoire aussi grand que la France. Actant peut-être le scénario le plus dangereux dans ce conflit, ce serait une partition de facto du pays, un peu suivant un scénario libyen, qui promettrait une guerre encore plus longue.
Une guerre sans fin. Comment expliquer qu'après presque 2 ans de conflit, aucune médiation, aucune tentative de conciliation, aucun accord politique n'ait pu avoir lieu ?
C'est une question qui est extrêmement, la laisser ouverte et c'est extrêmement difficile. En tout cas, une dernière tentative qui a eu lieu, c'était en novembre dernier. Je vais prendre l'angle humanitaire avec une tentative de résolution qui était portée notamment par la Grande-Bretagne sur la protection des civils, vraiment centrée sur les problématiques de protection. Et cette tentative de résolution a été un veto a été mis par la Russie. On voit qu'il y a des jeux d'alliance qui se sont mis en place. En fait, plus le conflit perdure, plus des acteurs extérieurs ont tendance à s'impliquer. Et ça, c'est des éléments qui, dans cette dynamique-là, où encore un camp cherche à l'emporter sur l'autre, va avoir tendance à prolonger le conflit et à empêcher la médiation, alors qu'en réalité, ce qu'il faudrait, c'est évidemment mettre une pression maximale sur tous les pays qui sont parties prenantes, donc pour les citer, du côté des forces de soutien rapide, les Émirats arabes unis sont reconnus comme un pays qui soutient en termes d'armement en particulier cette partie-là, et de l'autre côté, la Russie, l'Égypte, l'Iran probablement, soutiennent la partie des forces de soutien rapide. Mais ce qu'on demande, nous, en tant qu'acteurs humanitaires, c'est que il y a un changement radical de positionnement, notamment des agences des Nations Unies, qui ont fait le choix de mettre en avant, de se cacher, en fait, derrière les questions de souveraineté du Soudan, et qui n'ont pas été courageux ou forts dans leurs négociations avec les parties au conflit, notamment pour négocier tout ce qui est accès humanitaire. Aujourd'hui, elles se contentent de se soumettre aux contraintes et aux diktats imposés par Port Soudan, donc qui est la capitale provisoire des autorités des forces armées soudanaises. Alors que, en fait, le droit humanitaire s'impose aux parties au conflit et devrait primer. Et donc, il est essentiel, avant même que des médiations et une résolution du conflit ait lieu, essentiel que l'aide humanitaire puisse atteindre les populations. On pourra peut-être revenir sur la question de la famine, qui
bien
est
sûr,
quand même centrale.
Alors, on se parle concrètement, quel est l'accès, quelle est l'ampleur de l'aide qui arrive au Soudan aujourd'hui ?
Eh bien, il est dérisoire par rapport à la crise humanitaire. On est, pour vous donner vraiment en quelques chiffres rapides une idée de l'ampleur de cette catastrophe. On estime, l'Organisation mondiale de la santé estime que la moitié de la population est en situation de malnutrition, donc concrètement n'a pas assez à manger, c'est-à-dire à peu près 25 millions de personnes. Là-dessus, on peut compter 9 millions de personnes qui sont en urgence alimentaire ou en situation de famine ou un risque immédiat de famine. Il faut savoir que le Soudan est le seul pays au monde en situation de famine déclarée en ce moment. Face à ça, on pourrait s'attendre à une aide humanitaire massive. Et c'est absolument pas le cas, contrairement à ce qui a pu avoir lieu aussi dans des conflits précédents au Soudan. Pour vous donner encore une fois un ordre de grandeur, simplement pour un camp de réfugiés qui est le plus grand du Soudan, qui est collé à cette ville d'El Fasher dont parlait Elliot, ce camp de Zamzam qui était le premier à être déclaré en famine, qui abrite à peu près 400 à 500 000 personnes. MSF, nous, on travaille là-bas et on estime qu'il faudrait 400 camions d'aide alimentaire par mois. Or, ce qui est entré au Darfour depuis le mois d'août, c'est à peu près 5 camions par jour. Et aujourd'hui, nous, on demande à ce que, avant la prochaine saison des pluies, il y ait 2500 camions qui entrent par mois au Soudan. Et c'est ça qui permettrait de répondre à l'urgence alimentaire de ces 9 millions de personnes en urgence absolue.
Donc on est très loin du compte. Eliott, on l'a évoqué à l'instant brièvement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer et nous rappeler qui soutient qui et quels intérêts ces puissances étrangères ont à le faire dans ce pays qu'est le Soudan ?
Donc il faut voir que donc d'une part le général Hemeti donc à la tête des milices paramilitaires des forces de soutien rapide a noué une alliance de longue date avec les Émirats arabes unis vers lesquels il exporte depuis plus d'une dizaine d'années des tonnes d'or notamment depuis les mines du Darfour. C'est aussi via les Émirats pour le compte des Émirats arabes unis qu'il a envoyé de nombreux mercenaires, environ plus de 10 000 mercenaires combattre au Yémen le compte des Émirats arabes unis. Aujourd'hui, c'est un pays qui a mis en place un pont aérien de livraison de matériel et de d'armes, passant notamment avec la complaisance du Tchad voisin, et même plus récemment, directement dans des aéroports du Darfour. En face, on a et en plus de cette alliance militaire avec les Émirats arabes unis, le général Hemeti donc bénéficie de la complaisance de certains États régionaux. Donc on a mentionné le Tchad, mais il a aussi des liens avec l'Ouganda, l'Éthiopie ou les dirigeants kényans. Et de l'autre côté, on a une armée régulière donc dirigée par le général Burhan, soutenue principalement par l'Égypte, mais aussi le Qatar, l'Arabie Saoudite dans une moindre mesure. Ces derniers temps, l'Iran a renforcé sa présence à Port-Soudan. Elle livre notamment des drones Shahid à l'armée régulière qui, sur le terrain, ont permis de changer le cours des combats.
Mais au nom de quoi ? Au nom de la légitimité de la lutte ?
Au nom de d'anciens liens. En fait, il faut voir que cette armée dirigée par le général Burhan, elle est aussi gangrénée par un noyau de nostalgique du régime d'Omar al-Bashir dont on a mentionné au début de l'émission et qui reviennent dans le sillage de la guerre et qui occupent énormément qui ont un pouvoir de décision très important au sein de l'armée, aussi d'ailleurs sur les lignes de front puisque le mouvement islamiste soudanais dispose de milices sur le terrain qui combattent aux côtés de l'armée régulière. Et ces réseaux, ces nostalgiques du régime d'Omar al-Bashir, ont noué des liens de longue date avec l'Iran, le Qatar, et aujourd'hui, pour soutenir l'effort de guerre, ils ont réactivé ces réseaux, et c'est vraiment depuis quelques mois, ça a pu changer la donne sur le terrain.
On l'a dit, la guerre, je ne sais pas si on l'a dit, mais on le dit, a déjà fait. Alors, c'est le bilan officiel, mais il est sans doute sous-estimé 150 000 morts, des dizaines de milliers de civils engagés de gré ou de force dans cette guerre qui s'envenime. Sur 44 millions d'habitants, une douzaine ont été déplacés de force, 3 millions contraints à se réfugier à l'étranger et avant tout au Tchad, dont vous revenez, Marion Dualé. Qu'est-ce que vous racontent ces déplacés que vous avez rencontrés au Tchad de ce qu'ils ont vécu ?
Ben, ils racontent l'extrême violence à laquelle ils ont fait face dans la région du Darfour. Donc c'est bien ces gens du Darfour que j'ai rencontrés à la frontière tchadienne.
Donc on progresse, pardon, je vous interromps pour que tout le monde suive bien, où progressent les forces de soutien rapide du général Hemeti.
Absolument. Et où se trouve aussi dans le nord Darfour, la capitale du nord Darfour, cette ville de El Fachir qui est assiégée, qui fait un peu miroir quelque part à la ville de Khartoum qui est également assiégée. Et donc, et à El Fachir, notre crainte et la crainte de beaucoup d'acteurs et d'observateurs de ce conflit, c'est que se produisent à nouveau des crimes de masse tels qu'ils s'en est déjà produits au Darfour. Donc c'est une ville qui avait plus d'un million, un million et demi d'habitants avant la guerre, où aussi s'étaient réfugiés des dizaines et des dizaines de milliers de personnes du Darfour qui avaient fui les premières dynamiques du conflit dans cette région. Et donc ce que j'ai pu entendre en discutant avec essentiellement des femmes réfugiées, puisque ce sont très largement des femmes qui atteignent le Tchad, c'est évidemment les récits de bombardements, l'affamement des populations dans cette ville assiégée. C'est-à-dire que depuis, comme le rappelait Eliott, depuis mai-juin 2024, les routes qui approvisionnent cette ville ont été quasiment toutes coupées, presque toutes contrôlées par les forces de soutien rapide, qui bloquent à la fois l'entrée de l'aide humanitaire, mais qui bloquent aussi largement l'approvisionnement commercial. Donc on est dans une situation qui est assez Qui est absolument tragique et qui est presque absurde, où on a cette ville où se trouve une famine déclarée, assiégée et bombardée d'ailleurs par les deux parties, parfois selon les zones qui sont contrôlées, et où les gens ne peuvent plus, n'ont pas pu pendant des mois s'alimenter, qui sont soumis à des raids des forces de soutien rapide. Les gens racontent comment les forces de soutien rapide entrent dans la ville, entrent dans certains quartiers, peut-être en ciblant en particulier certaines ethnies comme les Arawaks qui sont majoritaires et qui sont aussi une des forces de résistance d'un des groupes dont on disait qu'ils sont des alliés des forces armées soudanaises, qui s'appellent les forces conjointes. Et donc ces raids sont aussi du ciblage en particulier des hommes en âge de combattre, mais aussi du ciblage sur dénonciation. Ce que les gens disent aussi, c'est les violences sexuelles de masse. C'est des témoignages qui sont concordants et qui ont lieu pas uniquement dans cette ville, mais un peu à travers le Darfour, sous contrôle des forces de soutien rapide. Et pour ce qui est des hommes, dont je vous disais que peu d'entre eux atteignent le Tchad, certainement pour des raisons multiples, mais j'ai pu parler par exemple avec trois adolescents qui avaient fait la route ensemble, qui avaient pris un temps extrêmement long pour atteindre la frontière tchadienne en évitant toutes les routes, parce que de nombreux récits mentionnent que les gens sont arrêtés au checkpoint, parfois exécutés, parfois kidnappés, et aussi, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces gens arrivent dans une situation de dénuement absolu parce que ils ont systématiquement été pillés. Tout est constamment pillé. Et donc, les gens arrivent au Darfour, au Tchad, traumatisés, avec plus rien avec eux. Et il faut dire que même au Tchad, la réponse humanitaire n'est absolument pas à la hauteur.
Eliott, on voit derrière Marion l'un des articles que vous avez consacré dans Le Monde à la situation au Soudan. C'est assez singulier, c'est malheureusement pas l'apanage du Soudan, mais ces femmes soudanaises que l'on a rappelé avoir été en première ligne lors de la révolution civile et populaire qui a renversé Omar el-Béchir en 2019, elles subissent aujourd'hui dans leur chair cette guerre qui n'est pas la leur.
Oui, je pense que c'est aussi important de faire le lien avec le Darfour, où donc en fait c'est le conflit donc qui prend racine dans au début des années 2000. On va schématiser un petit peu, mais c'est ce Omar el-Béchir, dans une opération de contre-insurrection contre des groupes rebelles, va lâcher donc des milices principalement recrutées dans les ethnies arabes nomades du Darfour contre des populations locales non arabes. Et aujourd'hui, on est dans une reproduction en fait de ce conflit à l'échelle du Soudan entièrement. Et là, juste pour rebondir sur aussi, on parlait du siège d'Al-Fasher. En fait, les méthodes de déplacement et de nettoyage ethnique des forces de soutien rapide se sont montrées évidentes au mois de juin 2023 à El Geneina, et notamment des viols de masse contre les femmes. Et en fait, c'est un procédé qu'on va retrouver sur différentes zones de front où les RSF issus du Darfour vont commettre des. C'est une partie de la stratégie de guerre de déplacement de nettoyage ethnique qui va utiliser le viol comme arme de guerre. Et ce qui est assez frappant, c'est de voir en face de nombreuses femmes soudanaises qui, dans les zones contrôlées par l'armée régulière, vont décider de suivre des entraînements militaires. Elles ne seront pas déployées au front, mais c'est la preuve aussi sur le terrain, les femmes nous racontaient qu'elles ne se sont jamais senties autant vulnérables, et comparé à 2019 où elles ont acquis une voix dans l'espace public, aujourd'hui elles sont complètement silenciées par la guerre et elles en sont souvent les premières victimes au milieu des affrontements. Et il y a des cas de violence commis des deux côtés, mais encore une fois, moi je trouve ça parfois difficile de renvoyer dos à dos les deux forces, puisque les forces de soutien rapide du général Hemeti commettent la plupart des exactions contre les civils et notamment contre les femmes.
Comment comprendre que les États-Unis, l'administration précédente, ait pris des sanctions contre les deux généraux, ne les qualifiant pas de crimes identiques, crimes de guerre, vous me corrigez si je me trompe, pour les forces crimes de guerre pour les forces du général Bourhan, crimes de génocide pour les forces du général Hemeti. D'abord, cette distinction est importante. Je crois que, Eliott, vous dites que c'est contre-productives d'une certaine façon, ces sanctions ?
En fait, ce qui interroge, c'est aussi le timing des sanctions. Donc, ça fait 20 mois que la guerre fait rage. Est-ce que ça aurait pas pu intervenir plus tôt ? En fait, c'est aussi deux généraux qui se sont alliés en 2021 contre un gouvernement civil reconnu par la communauté internationale. Donc, encore une fois, la question du timing pose question. Et effectivement, on est un peu retourné à l'étape zéro où on renvoie dos à dos deux généraux. Les deux sont des criminels de guerre. Mais effectivement, ces derniers mois, on avait en tout cas des discours de façade du côté des forces régulières à Port-Soudan qui voulaient un peu faciliter l'accès à l'aide humanitaire. Le fait est qu'ils utilisent la guerre comme arme de guerre, qu'il y a des nombreux blocages. Mais aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où il y a, à mes yeux, un risque de que les différents acteurs se braquent aussi sur le terrain, que le dialogue avec les ONG, enfin les acteurs humanitaires, soit de plus en plus compliqué, et que les deux camps se radicalisent et continuent la guerre totale sur le terrain.
Marion Dualé, dernière question sous forme de mea culpa. Pourquoi est-ce que ce conflit au Soudan, 150 000 morts, des millions de déplacés, intéresse si peu ?
Alors déjà, 150 000 morts, effectivement, comme vous le disiez, si ça se trouve, c'est totalement sous-estimé. En fait, on n'en sait rien parce qu'il n'y a pas suffisamment d'acteurs sur le terrain déployés pour pouvoir avoir ne serait-ce qu'une vision approximative du bilan de la guerre.
Et sur le désintérêt ?
Voilà, et donc c'est extrêmement frappant, contrairement à d'autres conflits qui, malgré tout, malgré les drames qui s'y passent, arrivent à capter l'attention. Là, le Soudan, pour moi, on peut pas se contenter de se dire ça. Il est indispensable aujourd'hui que toutes les parties, non pas seulement les parties au conflit dont on voit bien qu'elles ne font aucun cas des vies civiles, mais tous les pays qui peuvent avoir une influence sur ces parties ou qui sont de près ou de loin impliqués dans la poursuite de cette guerre doivent également être tenus responsables de la situation et des crimes qui peuvent être commis et qui vont probablement continuer à être commis s'il n'y a pas des mécanismes de protection qui sont mis en place le plus rapidement possible.
Message entendu. Merci beaucoup au Marion Dualé, chargé de plaidoyer au département des opérations de Médecins sans frontières. Merci Elliot. On peut reconnaître au journal Le Monde, il n'y en a pas beaucoup, d'avoir publié votre série de reportages, 8 reportages à retrouver sur le site du Monde avec les magnifiques photos du photoreporter Abdoul Monam Issa. Une émission à retrouver bien sûr en replay et en podcast. Merci à tous les deux.
Merci.
La suite de Parlons-en dans 2 minutes. On va écouter, change de sujet, depuis Strasbourg, le discours du Premier ministre polonais Donald Tusk. On va suivre ça avec Caroline de Camaret et Bruno Daroux. À tout de suite.